Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au Théâtre de l'Alliance Française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les travailleuses et les travailleurs du 1er mai, Charlotte Lipinska de Vogue, Eva Bettan de France Inter, Eric Neuhoff du Figaro et avec Pierrot Pierre Murat de Télérama.fr. On parle ce soir de chef-d'œuvre, hein. Un talent en or massif, La Ruse, Sentinelle Sud, Les Cent Dents, Pas de quartier et l'affaire Coligny. Dans le courrier de la semaine, Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Haneau n'a pas vraiment enthousiasmé nos auditeurs au fur et à mesure que le feu progressait sur l'écran et que la catastrophe qu'est ce film s'amplifiait. Nous écrit Franck Galli, j'ai préféré évacuer la salle au bout d'une demi-heure et fuir cet incendie cinématographique que Notre-Dame brûle. Pour Patrice Piche de Toulouse, Notre-Dame, c'est un scénario fumeux, une réalisation qui manque d'étincelles, bref, un film sinistre, on dirait du Reknoff. Hein. Notre-Dame, ajoute Pascal Hénard de Bourg-les-Valence, c'est un film en deux parties, le documentaire et le suspense, ni l'une ni l'autre ne sont réussis, hymne aux pompiers, mais pas au cinéma. Il y a tout de même des fans, comme Félix Zvarisuk, ce film est éblouissant. Et bien que l'issue soit connue, ça oui, il fonctionne comme un thriller. C'est du vrai cinéma, j'ai entendu des critiques débiles dans votre émission. Et du coup, je vais avoir du mal à vous faire confiance. Ou Damien Vabre, qui a trouvé lui aussi de la reconstitution prenante, avec un rythme haletant et des images spectaculaires. Mais si le courage des pompiers est bien célébré, Notre-Dame souffre d'un manque d'émotion. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. À propos de l'histoire de ma femme... De Liquido et Niendi, avec, vous savez, Léa Seydoux. Anne félicite Sophie, Eva et Michel. Oui, ce film est sublime. L'acteur masculin Gis Nabert est fabuleux. C'est un bijou féminin et féministe où l'homme est perdu et bouleversant. Damien Mousseau, j'ai vu sur vos conseils l'histoire de ma femme. C'était mon premier retour en salle obscure et ce fut un enchantement. À la fois l'image, cette ambiance un peu hypnotique, un temps suspendu, les acteurs magnétiques et magnifiques. Arnaud Sanquer confie qu'il y est allé en traînant les pieds. Et je me suis surpris à ne pas vouloir que ça se termine. Michel Simon a raison de ranger l'histoire de ma femme au rang des chefs-d'œuvre classiques. Quel plaisir, ajoute enfin Alexandre, d'entendre Michel Simon citer Conrad et Schnitzler à propos des personnages de l'histoire de ma femme. Les œuvres se répondent et se complètent. Je file donc à la découverte du film, puis du livre. Encore merci pour vos critiques. Voilà, et on commence avec un talent en or massif. Un film de Tom Gormican, que je ne connaissais pas. Coproduit, ça je comprends mieux, par Nicolas Cage, avec Nicolas Cage, qui joue de Nicolas Cage. L'acteur est très survolté, très endetté, très méprisé aussi par sa fille. Il ne joue plus que dans des bouses et rêverait d'être engagé pour son prochain film par Quentin Tarantino pour rembourser une partie de ses dettes. Il accepte de se rendre à Majorque à l'anniversaire d'un milliardaire mexicain comme les fréquents Eric Neuhoff qui a fait fortune dans les olives. Un certain Javi, joué par Pedro Pascal, qui est fan de l'acteur de Sailor et Lula et de Volteface. Et c'est alors qu'il est recruté badaboum par la CIA pour enquêter sur les activités de marchand d'armes du milliardaire. C'est assez frappadingue. On se demande un peu sous quelle substance ça a été écrit. Je parle du scénario. En tout cas, personnellement, je le déconseille à jeun, un talent en or massif. Pierre ?
Ben, moi, je trouve que c'est pas suffisamment, c'est trop écrit à jeun. Non, mais c'est trop sage, quoi. Les premières images, déjà, m'ont fait rire, parce qu'il y a la jeune femme qui va être enlevée, qui est la base de tout ça, qui dit à un moment donné, en voyant un vieux film de Nicolas Cage, « Ah, fucking actor, fucking genius !» Alors, Nicolas Cage est un très moyen comédien. Il n'a jamais été un fucking acteur. Il n'a jamais été un fucking genius. Et donc déjà, on a beaucoup de mal. Alors, comme en plus, Nicolas Cage, qui est pas bon, qui se paye un double peroxydé, mais qui est encore plus nul que lui. Mais tout ça ne serait pas grave, parce que ça pourrait être très sympa, cette histoire d'acteur raté qui veut reconquérir sa fille et qui... Mais alors, à ce moment-là, il faudrait un scénario écrit justement sous substance. Là, c'est d'une sagesse, d'une lenteur, d'un académisme total, et au moins un peu de fantaisie. C'est-à-dire qu'il faudrait... un peu ce que Philippe de Broca savait faire quand il faisait le magnifique avec Belmondo, c'est-à-dire comme ça avec des différences de rythme et de style quand c'est l'onirisme, quand c'est la réalité et tout. Et là, ça dure deux plombes.
Ah oui. C'est 1h45.
Ah ben ça m'a paru 2h15.
Oui, mais à Majorque, ça dure plus longtemps.
Enfin voilà, donc je trouve ça absolument, mais sans aucun intérêt. Si j'ai appris que comme ils n'étaient pas sûrs, le réalisateur, que Nicolas Cage accepterait, ce qui est bizarre, moi, il me semble que c'était sûr qu'il accepterait, vu que personne ne lui propose rien d'autre, donc ça serait...
Et ben donc il avait... Surtout qu'il est coproducteur. Hein.
Oui, ben voilà, il avait songé à un moment donné à Daniel Day-Lewis. Alors ça...
Fucking Daniel Day-Lewis.
Fucking, alors là, pour le coup, fucking Daniel Day-Lewis. Fucking genius et fucking acteur. Alors là, ça aurait eu une autre gueule, quand même.
Charlotte?
C'est-à-dire qu'en plus, on a eu fucking John Malkovich, déjà sur le même principe, Jean-Claude Van Damme.
Plus subtil, hein.
C'était plus subtil, même Jean-Claude Van Damme avait eu aussi ce film d'autodérision sur lui-même, même en France, on peut penser à Michel Blanc avec Grosse Fatigue, à Marion Cotillard et Guillaume Canet avec Rock'n'Roll sur le même principe. Moi, je l'ai pris pour de la série B assumée, et je trouve que c'est quand même assez divertissant. Alors, clairement, Pierre a raison, ça manque de rythme. J'ai rêvé un Soderbergh d'il y a 20 ans pour réaliser ça, parce que moi, je trouve ça quand même assez drôle. Nicolas Cage, évidemment, se moque de lui-même. Sa première réplique dans le film, c'est « Je voudrais aller chez le coiffeur ». Et quand on sait les tombereaux de critiques qu'il a eu à travers ses films, parce qu'il a eu toujours des moumoutes improbables et des coiffures invraisemblables, moi je trouve ça assez drôle. Il est excentrique, il est farfelu, le film l'est aussi. Malheureusement trop sage dans sa résolution, parce que le film retombe dans les travers du cinéma hollywoodien, à savoir la réconciliation familiale, enfin bon, on est très fleur bleue sur la fin, et ça ne pousse pas les curseurs du second degré à son maximum. Mais je trouve ça quand même assez divertissant.
Éric.
Ça part plutôt bien, mais le problème c'est qu'on sent que Nicolas Cage se prend pour un acteur culte, ce qu'il n'a jamais été, parce que même avec un revolver sur la tempe, personne ne peut citer un de ses films des dernières années.
Il l'est pour certains, il y a quand même une communauté geek Volteface, qui adore...
Oui, mais Volteface, ça a 20 ans, il avait encore des cheveux à l'époque. Et tout le film est comme ça, c'est ça qui est dommage, même le film sur Van Damme était beaucoup plus ironique, insolent et... plein d'autodérision. Là, on voit qu'il
y a quand même pas mal d'autodérision.
Au départ, mais ensuite, c'est quand même l'acteur que tout le monde s'arrache, qui est génial, sa fille l'admire, voudrait le relancer, mais c'est quand même d'une grande platitude. Pierre a raison, il aurait fallu un De Broca pour avoir le sens du rythme, qu'il se passe un petit peu quelque chose, parce que le milliardaire qui est censé avoir fait fortune en vendant de l'huile d'olive est évidemment un trafiquant de drogue, mais il doit jamais toucher à la deuxième marchandise. Il doit boire de l'huile d'olive et c'est tout, parce que c'est lisse comme tout ce qui se passe. Et Nicolas Cage, en plus, il a une espèce de clone de lui jeune qui l'engueule. Mais il est tellement botoxé et plein d'implants que le jeune a l'air d'être plus vieux que lui aujourd'hui. Et tout est comme ça. C'est dommage, parce que il aurait pu y avoir un vrai film sur lui, contre lui, et c'est quand même un type curieux, parce que il ne tourne que des nanars, dont la plupart partent directement en vidéo, et une fois tous les 10 ans, il joue un film d'un type qui est perdu dans les bois.
Ça, il le raconte dans le film.
Vaguement. Il dit qu'il a toujours fait des mauvais choix. Il s'est toujours planté.
Ça, il le dit, ça.
Il en a encore fait un. C'est une constante chez lui.
Eva.
Moi, j'étais prête à partir sur un film délirant, je demandais que ça. Une série B, une série Z, si vous voulez, mais tout. Et à l'arrivée, c'est un film extrêmement sage. Alors, il y a des petits bouts qu'on sauve et on dit, ah, là, il y a une belle idée. Quand il marche tout droit, il entre dans la piscine à débordement en tenant sa bouteille, et c'est comme si la bouteille le plombait au fond de la piscine. Ouais, il y a une chouette idée, il y a un petit truc qui est passé là, il y a une chose. Il y a aussi le fait que lui, il y va. Quoi, il y va quasiment premier degré, il se pose pas la question, il y est dans le film, ça, ce côté un peu intéressant. Après, ça part dans tous les sens, mais dans un sous-sens de n'importe quoi. C'est très dur de faire un film qui passe dans tous les sens, effectivement. Il faut une sorte de grâce, il faut savoir mener ça à la baguette. Et à l'arrivée, c'est extrêmement conformiste. Alors, il y a des petits bouts que vous pouvez piquer, il y a des moments un peu drôles.
Ouais, mais on va mais pas
c'est
au cinéma
des tout petits bouts. Hein. Non, mais c'est pas plus que piquer des petits bouts.
Les cinémas sont plus permanents, on peut pas rentrer et sortir.
Non, on peut faire du montage, mais c'est un peu difficile.
Un talent en or massif de Tom Gormican. La ruse du Britannique John Madden, vous savez, le réalisateur de Shakespeare in Love ou de Indian Palace, qui avait beaucoup de succès. Un film de guerre classique sport, si j'ose dire, sur l'opération de désinformation Minsmith, lancée en 1943 par les services secrets britanniques pour faire croire aux nazis à un débarquement des alliés en Grèce, alors qu'il s'agissait de la Sicile. Avec Colin Firth, évidemment, Kelly MacDonald, Penelope Wilton, et Johnny Flynn, dans le rôle d'un certain Ian Fleming, et oui, l'auteur de James Bond, qui était alors officier vraiment dans l'armée britannique. Alors celui-là, il fait vraiment 2h08, Pierre, tu vois.
Ah, j'ai confondu.
Hein, il fait pas 1h45.
Mais je me suis en milieu ou deux, donc c'est bon.
Eric.
Ah bah c'est un film très classique, revendiqué comme tel. Hein. Madden, on sait que c'est pas un génie, mais c'est un très bon artisan. Et ça se prête complètement à cette histoire qu'on ne connaissait pas bien, sauf Pierre Murat, qui avait déjà vu le premier film inspiré de cette machination.
Et c'était quoi ?
Ah ben j'en reparlerai.
Il en parlera tout à l'heure. Et là, c'est un film à l'anglaise, avec c'est surtout les acteurs qui sont prodigieux. Colin Firth, le type sur son visage, dans son regard, même quand il ne dit rien, on voit passer toute la gamme des sentiments. Il y a une secrétaire un petit peu âgée, parce qu'ils fabriquent un passé, enfin c'est compliqué comme histoire, ils inventent un type qui n'a pas existé, qu'on doit retrouver noyé sur les côtes espagnoles pour que les franquistes donnent le cadavre aux nazis, et que ça leur fera croire des documents que le débarquement aura lieu en Grèce. Et
tu résumes très très mal, parce que là les gens ils sont paumés.
Pas mal, pas mal.
Je suis pas espion britannique, moi. Et tout est comme ça. Et à un moment donné, ils fabriquent tout, un passé, même des faux tickets de théâtre, une photo de sa fiancée qui se trouve être une des filles qui travaille dans ses bureaux. Et ils lui inventent une lettre d'amour. On la lit à voix haute et il y a la vieille dame, la vieille secrétaire qui a écrit cette lettre. Elle ne dit rien et on voit sur son visage qu'elle a raconté toute son histoire d'amour ratée à cette occasion. Et ça, moi, ça m'a bouleversé. Et j'aime beaucoup un film anglais qui se termine à 8h du matin en disant « Allons boire un verre ». Il n'y a que eux pour faire ça, pour trouver un bar ouvert à cette heure-là. Et c'est ce qu'il faut faire en sortant de ce film classique, mais très bien foutu.
Eva ?
Moi, je pense qu'il vaut mieux le boire avant, parce que ça aidera à le supporter, en prendre deux mains peut-être. Ouais. C'est extrêmement ennuyeux. Oh. Quelque chose qui devrait être passionnante est extrêmement ennuyeuse. C'est du cliché de British. Ils sont impassibles. C'est une guerre qui se... Il y avait des choses formidables. L'idée, c'est comme du MacGyver. C'est-à-dire, dans une guerre, on va faire une mystification, inventer, faire une fiction, faire croire qu'un homme a existé,
une
qu'un
cadavre. Une fake news.
Voilà, une fake news qu'on appellerait aujourd'hui une fake news. Donc, cette piste-là est très mal utilisée parce que c'est très ennuyeux, les voir mettre un ticket dans la poche du cadavre. On s'en fiche. Hitchcock a fait beaucoup mieux, qui est l'homme qui n'existe pas. Kaplan dans La mort aux trousses. Oui, tout un film est construit sur l'homme qui n'existe pas. Donc il y a toutes ces choses qui sont assez ennuyeuses. C'est une guerre qui se passe dans un sous-sol. Il y a une histoire romantique, un triangle amoureux nul. Et même là où il devrait y avoir du suspense, le moment où enfin le cadavre arrive quelque part, même ça, c'est mou. C'est rare de faire un film aussi.
Mais la raison sur un point, c'est ultra british. Ça, c'est vrai. Ah
ouais. Oui, mais c'est
cliché. Non, mais on voit que l'espionnage, c'est pas du tout James Bond. C'est des fonctionnaires dans des petits bureaux.
Oui, mais c'est fait ennuyeux.
Mais c'est pas ennuyeux. Le travail n'est jamais ennuyeux.
C'est en 43. Hein,
surtout celui des autres, d'ailleurs.
Parlons de ça.
Non, mais je suis d'accord avec Eva. C'est très embêtant. Alors que justement, j'y viens, là, il y avait ce film, mais le remake. Personne ne le dit, enfin en tout cas pas les producteurs de la ruse.
De quoi ?
Mais d'un film de Ronald Lim, un film anglais aussi, qui s'appelait « L'homme qui n'a jamais existé » de 1956, et qui est exactement la même histoire, mais qui a un grand avantage. Il est plus court, il fait 97 minutes.
Avec moins de moyens, j'imagine.
Non, mais voilà, donc il est plus court. Il est beaucoup moins sentimentaliste, c'est-à-dire qu'on nous épargne, il nous épargne, le film de Ronald Lim, l'histoire d'amour auquel on croit pas, avec la secrétaire, tout ça. Là, tandis que là, c'est Clifton Webb qui joue le rôle de, donc avec une espèce de sécheresse et d'humour très, 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 très britannique, ça va vite, ça pète le fait, c'est bien. Et surtout, c'est beaucoup plus romanesque, puisque c'est peut-être pas vrai, mais à ce moment-là, comme disait l'autre, il vaut mieux filmer la légende plutôt que la réalité, ils ont, la version 56 invente un Irlandais proche des nazis qu'on envoie à Londres pour vérifier si le type existe ou pas. Donc il y a, est interprété génialement par Stephen Boyd. Et alors, ce qui fait que finalement ça devient en effet un film hitchcockien, puisqu'on on est presque avec le méchant pour savoir est-ce qu'il va réussir à remonter la piste. Donc, plutôt que de voir la ruse qui fait 215.
On le trouve ton
alors,
film.
Alors, ça s'appelle L'homme qui n'a jamais existé de Ronald Lim, et c'est à ESC édition. Le DVD est formidable.
Donc, le film d'aujourd'hui a trahi l'original.
Non, en tout cas, il est beaucoup plus réussi.
Charlotte.
La grande différence, c'est qu'entre les deux films, les dossiers ont été déclassifiés. Et donc, on connaît aujourd'hui tous les détails de cette opération qu'on ne connaissait pas à l'époque de l'homme qui n'existait
pas. Tu vois,
pas.
C'est mieux de pas connaître tout.
Mais oui, mais qui du coup, effectivement, comblait les trous, si je puis dire, par de la fiction. Alors qu'aujourd'hui, les dossiers étant déclassifiés au milieu des années 90, je crois, il y a un souci du détail dans la rue. C'est-à-dire, ils veulent une reconstitution de A à Z, du moindre ticket, effectivement, du moindre mot, d'un cil qu'on met dans une lettre. Enfin, tout ça est archi vérifié, validé. Moi, j'ai trouvé ça assez passionnant. C'est un peu l'ancêtre du bureau des légendes, quoi. Comment on fabrique, des fausses preuves sans les moyens technologiques, puisqu'à l'époque, c'était un artisanat extrêmement minutieux.
Il a pris de la verveine, Avreux.
C'est pas possible. Non, mais en ça, je trouve ça intéressant. Mais là où je rejoins Eva et Pierre, c'est que le scénario est très alourdi par cette couche sentimentale entre les agents secrets britanniques.
C'est ce qu'il y a de mieux.
Par des pistes de on soupçonne le frère de l'un d'entre eux d'avoir des accointances communistes. Oui, ça mène nulle part.
Rien.
Et ça alourdit beaucoup le propos. Et je trouve ça dommage parce que l'opération en tant que telle, elle est passionnante.
La ruse de John Madden. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non.
Si
une réaction. Ah, monsieur.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, très rapidement, le titre français n'est pas très très original.
Je pense la ruse, non.
Ils auraient mieux fait de garder, oui, parce qu'on peut l'appliquer à beaucoup de films de guerre. Ils auraient mieux fait de garder le titre original. J'ai eu l'idée de regarder Mincemeat, ça veut dire hachis de fruits secs, de pommes et de graisse.
Et
en américain, ça veut dire battre à plat de couteau.
C'est un peu long pour une affiche.
On aurait cru que c'était un nouveau hamburger chez McDo.
Et alors, ça renvoie, je pense que pour bien comprendre tous les détails, vous venez de le dire, je crois que le mieux, c'est de se reporter aux mémoires de guerre de Churchill, quand même prix Nobel de littérature 1953, dans sa version allégée chez Taillandier, présentée par François Kersaudy.
Oh là.
Vous relisez les pages 321 suivantes.
Oh là.
321 suivantes, 10 pages. Et vous avez tout le résumé de ce film, rédigé par Winston Churchill lui-même. Le faux cadavre a vraiment existé. Et alors, l'avantage aussi de ce film, puisque c'est le débarquement Sicile, et le cinéma étant un bloc, mesdames et messieurs, ça quand même renvoie à d'autres films qui sont des chefs-d'œuvre, qu'on a vu il y a un certain nombre d'années, puisque c'est le débarquement Sicile, ça préfigure la chute de Mussolini, ça renvoie au conformisme de Bertolucci avec Trintignant, ça renvoie bien sûr à Rome, ville ouverte, puis ça renvoie par exemple à d'autres films qu'on a vus et que vous avez commenté, Monsieur Garcin, par exemple Opération Valkyrie, puisqu'il est fait référence au complot des officiers contre Hitler.
Et à Lucky Luciano aussi.
Et à Lucky Luciano, et donc au parrain. Au parrain, première version.
Les Américains ici.
Donc voilà.
Merci,
on peut faire
monsieur.
Un tour d'horizon du cinéma.
N'oubliez
et c'est vraiment
pas les tuches.
Sur ce.
Opération Cornet
Beef. C'est intéressant pour ça.
Merci, monsieur, pour votre intervention. Autre film historique, l'affaire Coligny de l'Allemand Marco Kreuzpenter, l'adaptation du roman éponyme de Ferdinand von Schirach. Pas Jacques, hein, Fon. Ouais. Ben, on sait jamais, à la radio, c'est pas évident. En 2001, un individu est assassiné dans un hôtel de Berlin. Étrangement, son meurtrier, Fabrizio Collini, qui est joué par Franco Nero, il part pas, il ne prend pas la fuite. Et à son procès, un jeune avocat, qui est joué par Elias Mbarek, est chargé de défendre cet homme âgé et surtout très silencieux. Et il va découvrir bientôt que la victime et l'industriel qu'il a autrefois accueilli et grâce à qui il a pu faire des études de droit, et avec la petite fille duquel il a vécu un amour de jeunesse, et que l'arme du crime provient de la Wehrmacht. On revient à la même époque, et il faudra à cet avocat remonter jusqu'en août 44 pour comprendre qui était vraiment et ce qu'avait vraiment fait l'homme que Coligny a tué. Ça dure 2h03. Pierre.
Ben, c'est encore une fois un film où il n'y a pas de metteur en scène, quoi. Voilà. C'est-à-dire que...
Il s'appelle Marco Kreuzpenter.
Ben oui. C'est... c'est très bien, tant mieux pour lui, mais le problème, c'est que il filme comme un clip, et il filme à la fin, ça ressemble même à une... La dernière image, que je ne révélerai pas, ressemble à une à Cold Case, quoi. C'est un peu la série Cold Case. Non, mais il y a un personnage qui est intéressant, c'est pas tellement le héros, c'est pas tellement Franco Nero, parce que Franco Nero, il est très bien... C'est un mauvais comédien là aussi, mais c'est il est non mais il est.
Ah, il y a son regard.
Pierre, il glisse toujours ça entre deux virgules.
Il est formidable quand parce que quand il
joue pas,
il a un beau visage, ouais. Il a un beau visage comme ça. Donc quand pendant un quart d'heure on le filme, il ne dit pas un mot.
Mais c'est
il
ce qu'il
y a. Pas un souffle et c'est formidable. Voilà. Dès qu'il exprime une émotion,
il est pas payé à la ligne en même temps.
C'est beaucoup moins bien. Mais enfin, le personnage qui m'a le plus intéressé, c'est en effet le procureur général, parce que lui est un personnage qui tient tout le film en quelque sorte. C'est lui qui connaît les secrets, qui a été l'instigateur de cette loi assez scélérate qui a permis à pas mal de nazis de s'en tirer. Et lui est interprété par un acteur qui est très bien, que je ne connais pas, mais qui lui est très très bien, et qui a une espèce de cynisme, d'élégance froide, de méchanceté. Et dès qu'il est sur l'écran, brusquement, le film repart, parce que le personnage est opaque, il est trouble, il est un vrai méchant, un vrai cynique, et là, ça devient bien. Tout le reste est tellement téléphoné avec des flashbacks.
Très attendu, oui. Très
des
attendu.
Flashbacks.
Terrible. On ne raconte pas la fin, mais on y vient, je dirais, presque naturellement.
Oui, voilà. Non, c'est pas très bon.
Charlotte.
Je trouve Pierre gentil quand il dit c'est pas très bon. Moi, je trouve ça carrément épouvantable. J'adore les films de procès et je trouve que l'histoire est très intéressante. Elle est fascinante. Effectivement, cette loi de prescription en 68 est historiquement passionnante à étudier. Et pour moi, tout ce qui se passe dans le prétoire aurait pu suffire. Le problème, c'est que le réalisateur alourdit le tout. Alors, la musique, je vous en parle même pas. Dès que quelqu'un lève un sourcil, il y a les violons qui démarrent. Une histoire d'amour invraisemblable avec la petite fille de la victime. Enfin bon,
oui, qui,
voilà. Des flashbacks absolument atroces. Les flashbacks qui, par ailleurs, il y a aucune cohérence sur l'âge des comédiens. C'est-à-dire, il y a des acteurs qui se jouent eux-mêmes plus jeunes. Et puis d'autres protagonistes et carrément d'autres acteurs qui les jouent plus jeunes. Enfin bon, on est un peu perdu. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, il n'y a ni tension, ni finesse. Et ça manque vraiment de sobriété sur un sujet comme ça. Il aurait pu y avoir une tension incroyable dans le prétoire. Mais c'est tellement alourdi par un enrobage sirupeux que moi, j'ai vraiment lâché l'affaire, quoi.
Eric ?
Au bout d'une demi-heure, je me suis aperçu que c'était un film que j'avais déjà vu il y a 2 ans et dont je n'avais aucun souvenir parce que ça devait sortir à l'époque. Et au bout de 3 quarts d'heure, je me suis souvenu que j'avais trouvé ça très mauvais et je n'ai pas changé d'impression du tout parce que c'est un film, une espèce de Kougloff énorme, là, pesant, où tout est téléphoné, attendu. Même moi qui ne comprends jamais rien, j'ai tout de suite pigé ce qu'il y avait dessous de toute cette histoire. Et alors, heureusement, il y a cet acteur là qui joue le tueur, qui arrive dans la suite présidentielle et qui ne dit pas un mot. On dit, mais je connais cette tête-là, cette belle gueule. C'est Franco Nero, le type qui jouait dans tous les nanars des Western Spaghetti. Et là, ils ont l'intelligence, comme c'est un acteur calamiteux, de le rendre muet oui, les 9/10 du temps. Et c'est ce qu'il y a de mieux dans le film, ce silence, parce que tout le reste, alors l'avocat qui est d'origine turque, qui se trouve avoir été élevé par l'ancien nazi qui est industriel, en plus il tombe amoureux de la petite fille qui dit vaut mieux laver son linge sale en famille, et puis paf, le procureur, c'est son ancien prof de droit, mais non, c'est pas possible. Là. Et les flashbacks là, sur ce mini Oradour sur Glane, mais c'est épouvantable. Là. C'est vraiment, ce Coligny n'est pas inspiré du tout.
Eva.
Je souscris à ce qui était dit, mais en plus j'ajouterais une chose, c'est qu'il aurait pu avoir une vertu entre guillemets dans ce film, c'est de nous apprendre quelque chose, et ça nous apprend quelque chose sur cette loi qui est tardive, hein, 1968.
Absolument.
Et qui continue, qui en rajoute sur le fait qu'on va trouver un moyen juridique par une astuce d'exonérer l'immense majorité des nazis. Or ça arrive très tard, c'est le dernier quart du film, et entre temps tout a été tellement pas bon, tellement mauvais, qu'on se dit mais il fallait le construire autrement, je ne sais pas comment, mais la partie intéressante arrive à la fin.
Faire,
hein. Il y avait, oui, ça c'est une, mais tant qu'à faire.
C'est André Cayatte qui revient dans ses pires moments.
Oui, mais si vous voulez, déjà, et c'est mal construit parce qu'il avait deux leviers. Le levier des deux conceptions du droit, Et c'est les deux avocats. Or, il le tire vers l'anecdotique, le petit jeune face au vieux, le ceci, la cela. Et le deuxième levier qui devait passer dans le livre, qui était que il se trouve à être contre l'homme qu'il a élevé. Ça avait une signification pour l'auteur du livre, parce que lui-même, il l'a dit, était petit-fils de nazi et de haut gradé dans les proches d'Hitler. Donc, il voulait montrer dans le roman que c'était une histoire consanguine, que c'est les fils qui devaient accuser les pères. Sauf que là, au cinéma, on se dit, mais déjà, il devrait se récuser. On peut pas être avocat de la partie inverse pour quelqu'un qui est quasiment son père adoptif.
Il s'en aperçoit au bout d'une heure, oui, là, c'est imbécile.
Donc ça tient pas. En plus, ça tient pas. Voilà, en plus.
L'affaire Coligny de Marco Kreuzpenter. Sentinelle Sud, on continue hein, toujours avec la guerre, mais celle-là est plus récente. Le premier long-métrage de Mathieu Géraud, Christian Lafayette, c'est Neil Schneider, revient de guerre. C'est vraiment un rescapé, puisque son unité a été en grande partie décimée lors d'une opération clandestine en Afghanistan. Il voudrait reprendre une vie normale, mais il va se trouver mêlé à un trafic d'opium où sont impliqués deux frères d'armes, qui sont joués par Sofiane Kamès et Thomas Dalloz, qui ont aussi survécu. Le commandant, alors là, qu'il qualifie de père, est joué par Denis Lavant. Je crois que c'est la première fois que je vois Denis Lavant dans un uniforme.
Oh, chez Claire Denis, il n'a pas eu...
Ah, il avait déjà
Il me semble.
Ouais, mais en fait, film de Claire Denis, on ne s'en souvient pas, c'est ça. La...
En fait, la mission dont ils sont les seuls à être revenus n'était peut-être pas celle qu'ils croyaient. C'est un polar, mais je dirais sur le traumatisme de la guerre. Décidément une thématique de ce soir. Eric.
Eh ben, c'est très intéressant. Et puis, ça sauve un petit peu la semaine. Là. C'est du Jacques Audiard au
petit pied. On n'a pas encore parlé des Descendants. Hein.
Oui, ben attends. Et même du Audiard au petit pied, on prend. Parce qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a une force, il y a une originalité. On voit que la vie civile est un truc épouvantable pour les gens qui ont goûté à l'armée et au combat, qui ne savent plus du tout quoi faire. On ne sait pas quelle est la ville, on ne sait pas exactement à quelle époque ça se situe. Mais ce pauvre gars qui, tout d'un coup, se retrouve à pousser des chariots dans un supermarché... alors qu'il était en Afghanistan en train de combattre pour je ne sais quoi, il est complètement déboussolé, et ses deux copains vont guère mieux, et il y a cette histoire de trafic d'opium qui traîne là en sous-main, avec, comme tu disais, Denis Lavant, qui est devenu le sosie de Jacques Dufilhault. C'est impressionnant de voir ça, là. Il a une espèce
Mais je pense que c'est à cause de l'uniforme, ça.
Ah, peut-être son côté garde-fort, là, ou tournefort.
Voilà, c'est un garde-fort. Ouais.
Et le film part un petit peu dans tous les sens, n'est pas complètement maîtrisé, mais il y a un côté rugueux, il y a un côté antipathique, et ça n'est pas l'éternelle histoire de Titine qui rencontre Toto, mais elle aime un troisième. Et là, il se passe vraiment quelque
Schneider
chose.
Schneider est très bien. Hein.
Schneider est parfait. Comme il était très bon là dans l'histoire du journaliste en Yougoslavie, là, dont j'ai oublié le titre.
Sympathie pour le diable.
Ouais, c'est ça. Et c'est un acteur qui est en train de monter et qui va devenir incontournable. Et le film, faut suivre le nom de ce réalisateur.
Mathieu Géraud.
Mathieu Géraud, on le rappelle. Eva.
Moi, je trouve que c'est une des choses les meilleures de la semaine et aussi de la sélection qu'on a. C'est un film...
Je rappelle que la sélection qu'on a, c'est ce qui sort au cinéma.
C'est ce qui sort, hein. C'est bien ce que je sais, je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire que quand les gens vont choisir les films qu'ils vont voir, ça fait partie des films qu'ils peuvent voir parce que il y a un film d'atmosphère. J'aime pas ce mot, mais on la sent. On sent le vide, on sent pas les décors, l'hôtel abandonné où habite l'un des protagonistes, il renvoie à quelque chose. Il y a toute la notion de famille. Le personnage que joue Neil Schneider, a été un enfant de l'assistance. Et donc, on voit cette recherche de famille partout. Il veut recomposer une famille, il cherche une famille en permanence. Et plein de choses partent par des tout petits détails. Il parle en arabe avec la mère de son copain. On comprend qu'elle a dû être famille d'accueil pour lui. Donc, il y a plein de petites choses comme ça où il n'a pas besoin d'insister. Un de ses copains, justement, famille algérienne, je suppose, il est parti pour être vraiment français, je fais la guerre. Et il revient, il est considéré comme un traître par sa communauté d'origine et il n'a rien gagné. Donc il y a plein de choses qui passent. Oui, effectivement, le scénario, à un moment donné, il y a un casse improbable, ça marche pas, on fait pas un casse sans même et sans être pris, sans avoir une cagoule, enfin c'est un minimum, même nous on sait faire un casse.
Moi quand je fais un casse, je mets une cagoule.
Mets ta cagoule, Eva.
On s'en fiche.
Ah, quand Eva va au cinéma, on la connaît pas.
Je mets une cagoule d'ailleurs. Et ben voilà, il y a du cinoche là, ouais, il y a quelque chose.
Et Charlotte.
Oui, c'est très intéressant. Je trouve assez rare que le cinéma français s'empare de cette thématique qu'on a beaucoup vu dans le cinéma américain, c'est-à-dire le retour à la vie civile de soldats en choc post-traumatique. Et là, je trouve effectivement qu'il y a y a un souffle, il y a une atmosphère, comme vous le disiez, il y a quelque chose de très fort, je trouve, dans cette relation fraternelle entre ces deux garçons qui sont un peu frères de cœur, on va dire, mais entre jalousie, envie, il y a quelque chose sur ce lien de fraternité qui est très fort dans le film. Mais moi, j'ai quand même une petite réserve, c'est-à-dire que qui trop embrasse mal étreint, c'est-à-dire qu'il y a trop de sujets qui traversent le film entre cette difficulté du retour à la vie civile, entre une histoire de trafic de drogue au sein de l'armée
et
en Afghanistan.
Voilà, le sens qu'a eu cette mission.
Voilà, le sens de cette mission. Oui. Entre un casque qui tourne mal, entre l'amorce d'une histoire d'amour. Enfin bon, tout se précipite dans le dernier quart d'heure de manière un peu artificielle.
C'est un premier film, encore une fois.
Voilà, à mon sens, parfait. Mais je vous rejoins complètement que c'est vraiment un réalisateur à suivre, un excellent directeur d'acteurs, parce qu'ils sont tous très bons. Mmh. Et à ces garçons, je voudrais ajouter India Air, oui, que je trouve merveilleuse en jeune infirmière, un peu enfantine, naïve.
Qu'on a vu tout récemment dans le De l'Épine et Kerverne.
Absolument. Elle est toujours géniale, cette fille. Moi, je l'adore. Et là, elle apporte un peu de douceur et de réconfort à Nils Schneider. Donc voilà, c'est extrêmement prometteur, mais il y a encore quelque chose qui, je trouve, dans le scénario et l'ambition de traiter tous ces sujets, qui n'est pas vraiment abouti.
Pierrot.
Moi, je trouve que c'est une vraie révélation, oui, Mathieu Giraud, et je trouve qu'il s'en sort vraiment, mais très très bien, parce que moi, je trouve qu'il y a une unité dans cet apparent désordre. Parce que, bon, c'est un polar, bien sûr, mais le polar ici, c'est-à-dire à la fois le paquet de drogue qu'on recherche et le hold-up, c'est un MacGuffin à la Hitchcock, oui, quoi, c'est un prétexte, c'est important pour les personnages, mais pas du tout pour nous. Et moi, je crois que ce qu'il a voulu faire, il me semble, hein, c'est prendre Nils Schneider, qui est remarquable, parce que vraiment, c'est plus du tout le petit Minet des premiers films de Dolan. Il a forci, il s'est épaissi, c'est devenu un personnage maintenant. Et cette espèce, il le filme comme une sorte de rock, mais fragile en même temps, dont il va montrer peu à peu les fragilités. Et donc tout le film me semble...
Il a des raisons de l'être, cela dit. Hein.
Oui, non, mais bien sûr, mais ce qu'il montre, me semble-t-il, c'est à travers cette histoire d'amour qui n'en est pas une, qui en est une, mais qui n'aboutit pas, entre cette désillusion sur le père, entre... c'est l'évolution d'un type qui va véritablement vers la lumière. Et donc, lui, le réalisateur parle de Sidney Lumet, et c'est vrai qu'on pense à Sidney Lumet, au cinéma de Sidney Lumet, La colline des hommes perdus, Un après-midi de chien, sur les paumés, en quelque sorte. Et en même temps, il y a vraiment un appel sur quelque chose qui va aboutir, et je ne révélerai pas la fin, mais ça aboutit à la fin. Donc je trouve qu'il y a vraiment une vraie unité, et tous ces apparents désordres, le hold-up, les machins, les trucs, ne sont que des pièces pour permettre au héros d'aboutir à quelque chose. Et je trouve vraiment que c'est une vraie réussite.
En tout cas, c'est vraiment le film à... Oui. À remarquer ce soir, et oui, si on peut vous donner envie d'aller voir Sentinelle Sud, le premier long métrage de Mathieu Giraud. Venons-en au Sans-Dents, une comédie de Pascal Rabaté avec Yolande Moreau, Gustave Kervern, Charles Schneider, et dans le rôle du chef de la police, notre ami l'inspecteur François Morel. Comédie qui se déroule dans une décharge où vit une tribu, je cite, d'affreux sales mais pas méchants, qui s'exprime par borborygme, et recycle tout jusqu'au jour où la police débarque. Rabaté situe son film entre Mad Max et le cinéma de Jacques Tati. C'est court, ça dure 1h25, et en même temps il sort une BD que je vous indiquerai après. Eva.
Alors, sur le fond, ce n'est pas un fond provocant. Il ne dit pas « regardez ce que la société a fait à ces gens pour qu'ils vivent dans un sous-sol ». Donc toute la partie provocante, toute la partie dénonciatrice viendrait de la forme. En gros, c'est comme s'il nous disait, j'en rajoute, vraiment je les embellis pas, si je peux je veux les montrer encore plus moches, encore plus sales, et vous allez les aimer, parce qu'ils ont une humanité que vous n'avez pas, que nous avons peut-être perdue. En ce sens, il regarde plus du côté de Kiarostami, qui nous a toujours emballés en nous montrant des gens qui sont au fond de la misère. Après, sans pari, il est vraiment dans la forme, est-ce qu'on peut faire un truc qui est burnesque, carnavalesque? Il ne tient pas la durée. La question, c'est ça, c'est que le burlesque, ça peut tenir sur des bouts.
Ça dure 1h20. Enfin,
oui,
c'est très
non,
court,
mais
hein.
La durée, c'est très long, 1h20, en borborygme et tout. Il y a une scène formidable. Il y a la mort d'un homme, c'est formidable. Il y a des petits bouts comme ça, avec une sorte de canard. Ils ont volé un camion, oui. Je ne sais pas quoi, avec un canard qui vole sur des fils électriques. Donc, il y a des moments qui sont vraiment de poésie. Voilà. Mais la question, c'est celle de la durée. Je ne trouve pas du tout que ce soit un film négligeable. Mais cette promesse de tenir sur tout un film avec ce système-là me semble difficile. Et je pense que son espoir, c'est que le chaos du dessous, puisqu'ils vivent dans des sortes de grottes, atteigne le dessus. D'ailleurs, on voit
décharge,
que
oui.
atteigne le monde des flics, qui lui est très ordonné, très rangé, mais on voit que le désordre commence à arriver.
Éric.
Mais tu sais que on risque de parler de cette émission dans la rubrique Fait divers, parce qu'on pourrait être anglais pour nous avoir envoyé ce truc-là. C'est complètement raté.
Tu m'avais dit ça pour les Tuches, déjà.
Oui, mais les Tuches, à côté, c'est du Romer. Hein. Mais là, c'est effrayant, ce truc-là. Je sais bien que les cendants, c'est tout ce qui restera du quinquennat de François Hollande. Mais ce truc-là, mais j'ai rarement vu ça. Quand je suis allé au cinéma, on était 8 dans la salle. À côté de moi, il y avait 3 petites dames qui sont parties au bout d'un quart d'heure. 5 minutes plus tard, il y a un type avec un sac à dos, j'ai cru qu'il allait aux toilettes. Non, il est parti aussi. J'ai attendu 10 minutes de plus et je les ai suivis, ce qui fait qu'il restait 3 personnes dans la salle et je suis très inquiet. Je voudrais savoir ce qui leur est arrivé. Elles sont peut-être mortes pendant la séance pour rester.
T'es parti avant la fin ?
Oui, mais c'est pas possible, c'est insupportable là. Des débiles mentaux.
T'as aucune conscience professionnelle.
Des débiles mentaux qui regardent une machine à tambour en train de tourner comme si c'était la télévision. Tu me diras, c'est peut-être plus passionnant que certains programmes. Yolande Moreau avec son flingue qui tire sur tout et n'importe quoi. Une poupée gonflable crevée. Des borborings, des gloussements, des fous rires. Mais pas un son. Et ça, c'est couvert par les bâillements du spectateur. Alors, Jérôme, je sais bien que le titre est inspiré par ton ami Valérie Trierweiler, mais je ne te dis pas merci pour ce moment.
Pierrot.
Je suis tout à fait d'accord avec Eva.
Tu es en désaccord avec Eric.
Totalement. Parce que, et moi, j'ai été un peu agacé de voir certains critiques, je ne citerai pas, bien sûr, mais beaucoup, qui parlaient de mépris sur les personnages, qu'on n'avait pas le droit de peindre des gens comme ça. Mais enfin, pas du tout. Enfin, et tout le monde disait, n'est pas Scola qui veut. Alors, par curiosité et aussi par intérêt, j'ai revu Affreux, sale et méchant. Et là, je peux vous dire que s'il y a un film qui méprise ces personnages, le film est très réussi de ce collage, j'aime bien, mais enfin, c'est d'une méchanceté. Je crois que personne n'accepterait maintenant, on pourrait pas le tourner, un film comme Affreux, sale et méchant, où on voit quand même des miséreux se tuant les uns les autres, c'est atroce. Là, ce que je trouve, il y a, mais Eva l'a dit, il y a des moments où le regard que porte le cinéaste sur ces gens, par exemple, vers la fin, il y a une partie de campagne où ils sont là.
C'est pas du Renoir. Hein.
Le décor est absolument dégueulasse et tout. Mais eux, ils sont.
Aussi.
Mais non, maintenant, ils sont là, ils sont tranquilles, ils regardent, ils respirent et c'est très beau. Donc je ne vois pas du tout. Alors maintenant, je vais le dire extrêmement franchement, que quand le film sortira en DVD, il n'est pas sûr que je le regarde tous les soirs, mes soirs d'insomnie sur mon magnéto.
Le commentaire audio.
Mais je trouve que c'est un film qui est intéressant sur le regard qu'il porte et très malséant, en effet, et on ne peut plus, le cinéma malséant en France n'existe plus, en voilà un.
Charlotte.
Oui, malséance, si tu dis Pierre, mais enfin, quand même, avant tout, d'un ennui abyssal. Ben, c'est profondément ennuyeux. Tu disais, Jérôme, 1h15, mais c'est comme
1h25.
Alors, 1h25, mais c'est comme la météo, c'est 3h12 de ressenti, quoi. Moi, je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que je comprends qu'il y a un geste radical d'anar. Un peu en faisant ce film, et j'aurais tellement voulu soutenir et aimer cette audace, mais là c'était vraiment too much, c'est-à-dire que on peut citer Tati, mais il y a peut-être quoi 2-3 gags dans le film, et encore, moi pour vous raconter, celui qui m'a fait rire, c'est une course de vibromasseur dans les rigoles d'une tôle ondulée. Bon, moi ça, voilà, c'est un peu le... Oui, ça m'a fait rire. Oui, chacun a son vibro et c'est comme une course de petits canards. Enfin bon, voilà. Mais
je sais que tu as l'antenne là. Hein.
Oui, non, mais je l'assume complètement. Mais voilà, c'est ni Tati, ni Les Deschiens, ni la poésie des premiers films d'Abel et Gordon, qui sont souvent aussi sans parole, mais qui sont d'une telle poésie. Là, c'est moi ça s'est retourné vraiment contre le film, c'est-à-dire que Eva, tu disais, ils cherchent cette part d'humanité chez eux. Mmh. Bah moi je la cherche toujours, la part d'humanité.
Je trouve pas qu'ils soient irrespectueux vis-à-vis d'eux. Je dis pas irrespectueux. Comment tu tiens tout un film avec ça?
Tellement mal aimable. C'est-à-dire moi il y en a aucun que j'ai envie véritablement de rencontrer quand même.
C'est bien, pourquoi veux-tu qu'il soit aimable?
Bah avoir un minimum d'empathie, c'est tellement désagréable.
Ils sont pas intéressants, ils sont mal filmés.
Mais pourquoi veux-tu qu'ils soient
des patates?
Et pourquoi faut-il qu'ils soient drôles?
Parce que ça fait l'intérêt d'un film.
Mais pas forcément.
Mais alors quelle émotion tu as, Pierre? À part l'ennui qui te terrasse. Quelle émotion tu as?
Je pensais pas que vous alliez vous battre à propos des sentences ce soir. Alors là.
Bon, enfin voilà, je le déconseille fortement, quoi. Et Dieu sait que quand même Les Petits Ruisseaux était un film très joli qu'il avait signé il y a quelques années maintenant avec Daniel Prévost, et là on en est quand même très très loin.
Lequel Pascal Rabaté sort sa nouvelle bande dessinée qui s'appelle Sous les galets la plage aux éditions Rue de Sèvres, où il cite d'ailleurs au début André Breton, en matière de révolte, aucun de nous ne doit avoir besoin d'ancêtres. Donc l'ascendant de Pascal Rabaté au cinéma, des réactions sur ce film, non? Oui, une réaction.
Moi, je voudrais juste te dire, j'ai pas vu le côté Mad Max, mais j'y suis allé sans connaître, sans voir la bande-annonce et tout ça. J'étais un peu aussi surpris de pas voir de dialogue, etc. Et comment dire, au bout de 10-15 minutes, je me suis aussi posé la question de me dire, est-ce que je vais partir ou pas? Et au final, je suis resté et j'ai plutôt été satisfait du film. J'ai trouvé que c'était une belle parenthèse, c'était un bon moment de poésie aussi. Et personnellement, moi, je trouve qu'il faut aller le voir, quoi.
Merci pour votre témoignage et votre intervention. C'est tout sur Les Cendants. Pas de quartier, un film du vétéran Paul Vecchiali, 91 ans, si je ne m'abuse.
92.
92 ans. Un film, ou plutôt, comme il l'appelle lui-même, un musicodrame, sans les moyens des grands musicodrames américains. Ça se passe à Ramatuel et sa fameuse plage de Pamplonne, où s'ouvre avec l'accord du maire un cabaret de travestis. Et les réacs du conseil municipal vont tout faire pour le forcer à fermer. Et ils s'en prennent au patron de la boîte, alias Mimosa, et au jeune Adolphe, alias Annabella, qui est joué par Hugo Brousseau, dont la mère, jouée par Mona Heftre, est handicapée. Tout le film étant, comment le dire, parler, chanter, c'est difficile de mieux le définir. Il ne s'agit pas, avec ce film, dit Vecchiali, de faire le procès de l'homophobie, mais de montrer les excès regrettables qu'entraîne l'incompréhension de certaines personnes qui se présentent comme les tenants de l'ordre moral. Pierre?
Ben, moi, j'ai une grande admiration pour Paul Vecchiali. C'est-à-dire, il a tout fait, Paul Vecchiali. Il a fait des courts-métrages, il a fait des téléfilms, quelquefois un peu minables, et il a fait trois grands films, pour moi, en tout cas, qui c'est femme, Once More sur le sida, et En haut des marches avec son idole de toujours, Daniel Darieux. Et je trouve qu'il y a toujours...
C'est aussi la tienne.
Et aussi la mienne. Donc on partage ça. Et je partage avec Paul Vecchiali, Paul Vecchiali partage avec moi, je ne sais pas ce qui est le plus poli, l'admiration pour Daniel Darieux et surtout le goût pour le dégoût, le mépris en tout cas pour le naturalisme. Et c'est ça que j'aime chez lui, c'est-à-dire cette audace à vouloir toujours essayer de surprendre et d'atteindre la vérité par l'artifice. Et là, il y arrive, je trouve, de nouveau très bien avec cette histoire de texte très écrit, mais en même temps presque musical, qui devient presque de la musique, où les acteurs commencent...
C'est pas les parapluies de Cherbourg, hein, attention.
C'est pas les parapluies de Cherbourg, non, mais il y a une...
Non, mais je disais pour ceux qui n'ont pas encore...
Non, c'est pas un film entièrement chanté, c'est pas les parapluies de Cherbourg, c'est pas une chambre en ville, mais c'est juste le décalage qu'il y a entre le réalisme et la magie, et je trouve que c'est un des rares cinéastes à être d'une audace et d'une invention permanente. Alors, c'est peut-être pas le film de lui que je préfère, c'est vrai, mais en tout cas, il faut aller le voir, et un jour, on s'apercevra peut-être que Vecchiali tient une place absolument prépondérante, même s'il n'est pas très connu dans le cinéma français.
Charlotte.
C'est compliqué. Oui. je rejoins Pierre, effectivement, l'admiration qu'on a pour ce cinéaste qui continue à faire des films à 92 ans, puis alors à un rythme assez effréné, puisque c'est quasiment tous les ans ou tous les deux ans, dans un sillon très personnel, avec un style bien à lui.
Et sans grand moyen.
Alors, c'est même pas sans grand moyen, c'est-à-dire c'est 2,50 euros, quoi. Vraiment, enfin, très peu de moyens. Allez, mais bah, justement, à propos de moyens, moi, le problème, c'est que je trouve que cette économie de moyens, il n'arrive pas, en tout cas, avec ce film-là, à le dépasser ou à le transfigurer en moment un peu poétique. C'est-à-dire, la magie n'opère pas. Je vois des décors moches. Ce sont des plans fixes très longs avec ce passage du parler au chanter, c'est-à-dire faut quand même accepter ce contrat un peu tacite qui fait avec le spectateur de ce code invraisemblable et anti-naturaliste. Après, les comédiens sont assez bons, mais moi musicalement ça m'a un peu écorché les oreilles, c'est-à-dire c'est quand même aussi du synthé de Balpopu, il y a pas une mélodie, on est anti-mélodieux au possible.
Non, exagère.
Elle a pas tort.
Bah quand même quoi. Et alors voilà. Et en même temps, je trouve que c'est audacieux, que c'est personnel, que c'est singulier, mais ça relève un peu de l'expérience quoi. Parce que pourtant, mais pour ceux qui aiment pas, c'est du mauvais théâtre filmé.
Oui, l'épreuve.
C'est terrible quoi. Et surtout, je trouve, il y a des numéros musicaux donc dans ce cabaret et jamais on est emporté, même s'il y a que 4 danseuses, les numéros sont assez à plat. Je trouve qu'il y a pas d'énergie et que on n'est pas emporté par le combat de ces héros, ce que je regrette.
Heureusement que t'as pas...
Eric.
Eh ben, je ne l'ai pas vu, je préférais que tu restes en vie ce soir.
Ah, tu ne l'as pas vu?
Ben non, ça passait dans une salle au bout de Paris et j'ai pas eu le courage parce que je savais que c'était pas pour moi.
Eva.
Et vous m'avez convaincu en vous entendant tous les deux.
Eh bien, moi je suis sur l'axe Pierre Murat, c'est-à-dire que moi je trouve ce film formidable.
Ah.
Parce qu'il y a quelque chose qui passe. C'est comme le théâtre classique. Tout est noué. Le drame est noué. Il y a les bien-pensants. Donc on sait que ça va mal se finir. Il y a une manière de mêler le drame et la gaieté.
Le seul suspense, c'est en train de le...
Ah non, non, ça peut mal se finir. Je me reprends. Voilà. Ça peut mal se finir, mais...
Éric l'a pas encore vu, donc il faut...
Oui, non, c'est pas bien. Mais si tu veux, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est aussi de voir comment il prend ça au sérieux. C'est-à-dire que c'est totalement dans l'artifice. Le conseil municipal, 5 personnes autour d'une chaise en face du maire qu'il joue lui-même. Le maire, lui, étant très tolérant.
Vous connaissez en plus Ramatuel, c'est...
Voilà, exactement. Et donc, on a cette mise en scène-là, et on voit que pour la liberté d'expression, pour la liberté du théâtre, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, comme si le fait de porter une robe et de la lever à un moment donné était la chose la plus importante du monde. Ils donnent une humanité même aux méchants. Les méchants, ben, ils ont leurs circonstances atténuantes.
C'est ça.
Il y a plein de choses. Il y a plein de choses
sur le fond, Eva. Alors, tout le monde est d'accord, mais il faut quand même prévenir les auditeurs que formellement, c'est une expérience.
Moi, le seul reproche que je fais, c'est que par moment, ils chantent tellement mal que c'est une souffrance. C'est le seul reproche que je fais.
Merci.
Pour un film chanté par Alès, c'est un petit...
Pour une comédie musicale, c'est quand même emmerdant, quoi.
Mais non, mais j'y cours vrai. À la sortie.
Mais non, c'est pas vrai, enfin, c'est vraiment bien. Enfin, alors, j'ai les mal défendus, enfin, c'est pas possible.
Il chante faux, il joue mal, c'est fauché. On n'y croit pas.
Mais enfin, j'ai pas du tout dit ça.
Mais enfin, on est
j'ai pas du tout dit ça. Il chante un peu faux, on va dire.
Mais on est des cinéphiles, quand même. On peut quand même...
Mais Charlotte a raison de dire que...
Mais bien sûr.
Les gens qui vont y aller, il faut leur dire simplement...
Mais bien sûr.
Oui, vous pouvez dépasser ça, parce qu'il y a tellement de choses formidables que c'est pas
Paul Vecchiali, c'est pas David
pas
Fincher.
Manchevich.
Voilà, bon, et ben c'est très bien. Mais on a le droit aussi de défendre un cinéma qui est inventif et audacieux.
Mais
voilà.
Oui, je trouve qu'à 91 ans, chapeau, il en aurait 42,
92.
Je veux dire. Mais voilà, 44, ce serait aussi bien. Il y a de l'audace, il y a quelque chose.
C'est du cinéma.
Oui, voilà. Mon Pierre.
Ça s'appelle, je te dis ça pour que tu n'oublies pas, Eric, pas de quartier.
C'était pas dans le mien, en tout cas.
Et c'est donc Paul Vecchiali. Eh bien, on a tout à fait le temps de conseiller d'autres films à nos auditeurs et on va commencer avec Charlotte.
Alors, il y a un mois, Nicolas Chaleur, à cette table, vous avez conseillé « Et j'aime à la fureur » d'André Bonzel. Et comme il avait été un peu rapide et très en avance sur la sortie, je voudrais vraiment, vraiment en reparler parce que c'est, d'après moi, ce qu'il y a de plus beau à voir au cinéma en ce moment. Alors, André Bonzel...
Je rappelle que c'est le co-auteur...
de « C'est arrivé près de chez vous ».
Film culte qui va fêter ses 30 ans à la fin du mois de mai, puisque c'est le, il était à Cannes en 92.
Absolument. Mais ne pensez pas à C'est arrivé près de chez vous, puisque là, c'est une proposition de cinéma qui n'a absolument rien à voir avec le film de Benoît Poulvorde. André Bonzel collectionne depuis toujours des bobines de films amateurs et anonymes. Et il y a toujours eu aussi dans sa famille des caméras. Et donc, ce film est un montage de films amateurs et de films de famille, de sa propre famille. Et à travers toutes ces images, bah, il revisite sa vie à travers celle des autres. Il s'interroge sur son enfance, ses premiers émois, son premier chagrin d'amour, des rapports extrêmement difficiles avec son père. Et ce film est vraiment pour moi la preuve vraiment que finalement les auteurs, plus ils sont personnels, plus ils sont universels. C'est-à-dire qu'en partageant sa propre vie, il nous touche à des endroits complètement insoupçonnés. C'est une musique originale de Benjamin Biolay. C'est traversé par une mélancolie inouïe. Ça vous serre le cœur. C'est sublime et j'aime à la fureur.
Le conseil de Pierre.
Eh bien, je vais continuer dans la cinéphilie pure. Je vais vous on ne parle pas souvent des films muets.
Là, t'en as.
Eh bien, voilà. Donc, je vous conseille deux coffrets. Un qui est édité par Gaumont, c'est Judex de Louis Feuillade. Mmh. Feuillade, c'est l'élégance du muet. C'est le Romère ou le Ophuls du muet. C'est absolument superbe. Et puis, dans un autre, alors, c'est un peu moins cinéphile, mais quand même, c'est Belphégor. Alors, tout le monde se souvient du feuilleton Belphégor de Barbara, avec Juliette Gréco et Yves Régnier. Et ben là, c'est un film qui date de 1926. C'est de Henri Desfontaines. C'est 4 épisodes. Au total, ça fait plus de 4 heures.
4 heures muets, tu veux dire?
Absolument. Avec, voilà. Mais c'est formidable. Et les scènes dans le Louvre sont absolument sublimes. Donc voilà, Judex, Feuillade, Gaumont et Belphégor d'Henri Desfontaines chez Pathé.
Moi, je vous conseille un film d'animation tchèque de Mikaela Pavlatova, qui s'appelle Ma famille afghane, qui est l'histoire d'une jeune femme blonde et tchèque qui, pour l'amour de son mari Nazir, part vivre à Kaboul en 2001. Elle doit porter le voile, évidemment ne jamais parler à des hommes hors de la présence de son mari, être enfermée à la maison. Et cette chronique d'une occidentale dans un milieu oriental est réussie à être dessinée au sens propre, mais sans aucun manichéisme. Et ça, je trouve ça très fort et très émouvant. Ma famille afghane de Mikaela Pavlatova. Le conseil d'Éric.
Un premier film qui a eu la caméra d'or à Cannes l'année dernière, Mourina de la Croate, Antonetta Alamat Kuziz Janovic. Et c'est vraiment une découverte, ça. Ça a été produit par Scorsese, qui n'est pas n'importe qui. Et c'est l'histoire d'une adolescente dans une île croate, dont le père est un pêcheur de murène. Elle nage avec lui, elle plonge avec lui. Et le père est un type odieux, autoritaire, macho, avec qui elle s'entend très mal. Et survient sur cette île un ami italien du père qui est richissime et dont on devine qu'il a eu un faible pour la mère, ou une histoire qui aurait pu se produire ou qui ne s'est pas produit, et ça change toute la donne, et le film est magnifique. Et il faut absolument pas rater ça, parce que ça va pas rester 3 semaines encore à l'affiche.
J'avais fait le choix de 2 films, celui-là et un autre. Celui-là, je voudrais rajouter que c'est en plus un thème psychanalytique pas du tout traité de cette manière, c'est l'envie de tuer le père. Et dans cet endroit idéal, on voit tout de suite...
Je croyais qu'il fallait coucher avec.
On voit comment le père est tellement odieux qu'il suscite une haine. Et la manière dont ça passe est extraordinaire. Tu en as très bien parlé, je dis juste, ne le ratez pas. Deuxième film, vous en avez déjà parlé ici, c'est Vortex de Gaspard Noé.
Si vous refaites tous dans vos conseils les films qu'on a déjà évoqués.
Oui, mais je le répète quand même, pareil, parce que c'est des films, on ne sait pas combien de temps ils resteront. A priori, si on vous dit le sujet, vous avez envie de vous enfuir à courant. La vieillesse, les maladies type Alzheimer, et c'est avec, on avait peur avec lui, c'est un sale gosse. Ben non, il le fait avec une délicatesse, une finesse, c'est vraiment très bien.
La Tribune du Masque ayant été unanimement élogieuse pour un film de Gaspard Noé, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Merci pour ces conseils que vous pouvez retrouver sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci donc Eva Bétan, Charlotte Lipinska, Pierre Murat, Éric Neuf pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella. Mais ce soir à la technique au Théâtre de l'Alliance Française, il y avait, je les remercie, Marie le Peintre, Philippe Thibault, Alex Otinoa, à la régie Jean-Yves Masson pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, Il aura lieu le jeudi 12 mai à partir de 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de littérature. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.